Comment circonscrire un foyer épidémique? Pourquoi les abattoirs sont-ils des lieux de propagation du Covid-19? Les consignes sanitaires sont-elles plus difficiles à respecter? Autant de questions qui se posent après cette centaine de cas de personnes positives au Covid-19 dans deux abattoirs dans les Côtes d'Armor et dans le Loiret, des communes où des campagnes de dépistage massives sont en cours. C'est de tout cela dont on va parler avec nos invités que je vous présente. Bonjour Pascal Crépé.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Bonjour à vous également, docteur François Meurins.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunovirologie à ONIRIS, une école nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes Atlantique. Voyons d'abord les faits, toutes ces questions qui se posent. Et est-ce qu'elles inquiètent les autorités, Audrey Morel-Atteau?
Eh bien, en tout cas, les autorités s'interrogent. 69 cas positifs près de Saint-Brieuc, un tiers des salariés de l'abattoir. Près d'Orléans, 34 cas déjà confirmés. Mais les 400 salariés vont tous être dépistés aujourd'hui et demain. Pourtant, d'après les entreprises, il y avait bien des masques et des gants à disposition, du gel hydroalcoolique et des mesures de précaution qui avaient été mises en place. À l'étranger aussi, les cas de contamination dans les abattoirs ou dans les usines de découpe de la viande se multiplient. Aux États-Unis, plus de 115 abattoirs ont été touchés, 5000 salariés contaminés. En Allemagne, un nouveau foyer a été détecté dans le nord du pays avec 92 nouvelles contaminations. Deux autres avaient déjà été signalés et un abattoir en Australie également concerné. Les autorités vont donc enquêter, et pas seulement en France, sur la promiscuité des salariés, bien sûr, mais aussi sur le développement de la maladie dans un environnement froid et évidemment sur une possible contamination par la viande.
Ouais, c'est effectivement une des questions qui se posent, François Meurins. C'est un des constats hein, dans ces abattoirs. Sans doute les sources de contamination potentielle sont multiples.
Oui, tout à fait. En fait, maintenant, en ce qui concerne la viande plus particulièrement, on peut à ce stade-ci hein, complètement exclure cette voie de contamination potentielle. Le risque, me semble-t-il, est plus grand de par les actions qui sont menées dans ces abattoirs. Et on sait, par exemple, que dans les abattoirs, il y a pas mal d'aérosols qui peuvent être générés, donc avec de l'eau, mais également aussi de certaines petites poussières, par exemple d'eau. Et ça, c'est tout à fait propice pour le virus.
Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément la proximité entre les salariés qui est la première cause. Ça, c'est dans d'autres endroits aussi. Hein.
Oui, maintenant, dans les abattoirs, ça dépend un peu d'un abattoir à l'autre. Il y en a certains qui sont parfois un petit peu plus anciens. Et dans les plus anciens, il se peut que des personnes soient amenées à se croiser. Alors là, évidemment, le risque est un peu plus grand, en dehors de la chaîne d'abattage. Il y a aussi un autre élément qui me semble est important, c'est que dans les abattoirs, on sait qu'on utilise pas mal d'eau, donc c'est une atmosphère plus humide, et ça peut éventuellement altérer un petit peu certains masques de type masques chirurgicaux, et en plus, on sait que les virus enveloppés, hein, comme c'est le cas ici, aiment beaucoup l'humidité.
Donc plus de fragilité potentielle. Pascal Crépé, est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer des contaminations qu'on ne découvre pas dans les abattoirs? Audrey Morel-Atteau le disait, dans d'autres pays aussi, aux États-Unis notamment, ça a été la source d'une des principales contaminations, je crois.
Oui, ce qu'on sait bien, c'est que le virus continue de circuler. Hein. Le virus, il n'est pas d'emblée présent dans les abattoirs, il est introduit par l'extérieur. Donc la question qu'il faut se poser là, c'est ce qui a été soulevé par votre invité, c'est est-ce que le risque est accru dans les abattoirs par rapport à d'autres endroits et d'autres activités? Et à ce moment-là, s'il faut renforcer les mesures qui sont actuellement prise. Et ça, c'est effectivement l'enquête et l'analyse environnementale qui permettra de le dire.
Le maire d'une des villes concernées était sur France Info tout à l'heure, Pascal Crépé, il disait, pour le moment, il n'est pas question de fermer cette entreprise. Que dit l'épidémiologiste que vous êtes? Pendant la période des tests, c'est mieux de fermer, ou alors c'est une question qui ne se pose pas trop? Pascal Crépé, êtes-vous encore là? Ah, donc Pascal Crépé n'est pas là, mais nous le retrouverons dans deux minutes très probablement. François Meurins, vous expliquez les particularités de ces abattoirs. Est-ce que les vétérinaires sont impliqués justement dans la gestion de l'épidémie et du virus dans des établissements comme cela ou d'autres d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, les vétérinaires sont toujours très vigilants par rapport à tous les risques microbiologiques dans les abattoirs. Et donc, ici, plus particulièrement dans le contexte actuel, ils sont encore plus vigilants. Maintenant, c'est vrai qu'on est informé régulièrement par différentes sources, par différentes voies sur les risques et on tient compte de l'actualité, bien entendu.
Mais vous êtes sollicité dans des cas comme celui-là? Vous trouvez qu'on fait suffisamment appel à vous?
On pourrait faire encore plus appel à nous. Hein. C'est un peu le concept de une santé, là, le fameux One Health anglo-saxon. Et je pense que là, à ce niveau-là, on pourrait être encore plus sollicité. Maintenant, ça progresse. Et donc, les vétérinaires, plus récemment, ont été sollicités par rapport aux risques éventuels chez l'animal relatif à ce SARS-CoV-2.
Pascal Crépé, nous avons retrouvé épidémiologiste. Je vous posais la question tout à l'heure de la fermeture ou pas de ces établissements le temps que les tests de dépistage soit effectué. Le maire d'une des communes disait pas question de fermer pour le moment. Qu'en dites-vous?
Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut tester le plus de monde possible et essayer de comprendre ce qui a engendré ces contaminations. C'est seulement en ayant plus d'informations sur la cause de ces contaminations que l'on pourra prendre des mesures les plus efficaces possibles.
Pas de fermeture de prévention.
Les fermetures, c'est sûr que si on fermait, on éviterait les contaminations à venir à l'intérieur de l'usine, forcément. Mais ça poserait aussi d'autres problèmes, notamment de mettre des gens qui ramener les gens dans leur foyer et qui pourraient éventuellement, sans être testés, contaminer le reste de leur foyer. Donc, je pense que l'urgence pour l'instant, c'est d'essayer de détecter massivement les personnes contaminées et mieux comprendre ce qui a causé ces contaminations avant de prendre toutes mesures strictes comme une fermeture.
Oui, c'est cet impératif de dépistage, de repérage des chaînes dans les abattoirs et ailleurs. On poursuit la conversation avec vous. Vous restez tous les deux en ligne, évidemment, après le fil info de midi 10. Aurélien Tirard.
Comme une belle endormie, l'économie française se réveille doucement. Ce sont les mots de Bruno Le Maire sur France Info. Le ministre de l'économie indique que seuls environ 30% des chantiers sont encore à l'arrêt. Bruno Le Maire annonce également sur France Info un plan pour l'automobile sous 15 jours. Ce serait une faute criminelle de relancer l'économie sans sauver l'humanité, notre santé, notre climat, lance pour sa part l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot sur France Inter. Le Conseil d'État ordonne d'arrêter d'utiliser des drones pour contrôler le déconfinement à Paris. C'est ce qu'indique la Ligue des droits de l'homme qui avait saisi l'institution. Des cadences accélérées sur les lignes, des métros et des RER qui vont circuler de 5h30 à 1h15. La RATP annonce un retour aux horaires normaux dans une semaine, lundi prochain. D'anciens collaborateurs de la députée En Marche, Laetitia Avia, vont porter plainte pour harcèlement moral. Ils dénoncent des humiliations à répétition. Avocate et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, Laetitia Avia est à l'origine de la loi contre les contenus haineux sur Internet adoptée la semaine dernière. À Argenteuil, dans le Val d'Oise, des échauffourées brèves mais intenses ont éclaté hier soir au lendemain de la mort d'un homme de 18 ans dans un accident de motocross à proximité d'une voiture de police. Des abribus ont été saccagés, des poubelles incendiées et il y a eu des coupures d'électricité. Tous réunis en visioconférence, c'est une première, les 194 pays de l'OMS débattent aujourd'hui de la réponse internationale à la pandémie. De nombreux chefs d'État, de gouvernement doivent prendre la parole à l'occasion de cette Assemblée mondiale de la santé.
France Info. Et tout est plus clair.
Et avant de voir de quelle manière est organisé le dépistage dans les foyers, il y en a 25 à peu près qui ont émergé en France de coronavirus depuis une semaine. Restons sur la question des abattoirs. Une minute, François Meurins, compte tenu de ce qui s'est passé dans deux abattoirs récemment, un troisième, je crois, il y a quelques semaines, est-ce qu'il faut mettre en place des contrôles, des vérifications dans les autres abattoirs de France en ce moment?
Bon, en tout cas, ça pose la question par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'il faudra quand même bien observer dans tous les autres abattoirs les circuits, donc si les personnes sont amenées à se croiser ou pas, faire attention aussi en dehors donc de la chaîne d'abattage, je pense notamment au réfectoire, à bien respecter les mesures de distanciation. Et donc, je pense que c'est un petit peu au cas par cas. Si on a un abattoir qui est un petit peu plus vétuste, il faudra porter encore une vigilance plus grande.
Donc, un peu de vigilance, de prévention supplémentaire serait sans doute nécessaire.
Tout à fait.
Alors, Audrey Morelato, je me retourne vers vous à présent. Donc, je le disais, 25 foyers répartis dans toute la France, identifiés depuis quelques jours. De quelle manière, justement, sont-ils identifiés? Comment sont-ils maîtrisés, Audrey?
Eh bien, ce sont tout simplement les dépistages qui permettent de repérer ces fameux foyers. Dépistages prescrits par un médecin la plupart du temps, parfois dépistages volontaires. En tout cas, en cas de test positif, la personne fait l'objet d'une enquête approfondie pour identifier tous ses contacts les jours précédents, voire les semaines précédentes. Ce sont des brigades spécialisées qui remontent le fil des contaminations. Les contacts sont alors testés à leur tour et si plusieurs d'entre eux sont positifs, alors on parle d'un foyer de contamination. Il n'y a pas de situation type, il y a des réunions de famille, de la promiscuité au travail, du manque de précaution parfois. Tous ces facteurs ont pu apparaître pour l'un ou l'autre des foyers. Les contacts, en tout cas, sont systématiquement isolés chez eux la plupart du temps et même avant le résultat des tests par sécurité. Ces enquêtes, elles vont aussi permettre de mieux comprendre dans les prochains temps comment circule le virus et si certains contacts sont effectivement plus risqués que d'autres. C'est en tout cas ce qu'espèrent découvrir les médecins et les chercheurs.
Merci beaucoup Audrey Morelato. Pascal Crépé, ce qui se passe autour de ces abattoirs, c'est un peu le laboratoire de ce qui est essentiel dans cette période qu'on vit en ce moment en France. Hein. C'est vraiment la clé sans doute.
Oui, tout à fait. Donc, il faut bien comprendre que pendant le confinement, on ne pouvait pas détecter vraiment des clusters. Il n'y avait pas de moyen de les surveiller. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en voit et qu'on en voit autant. Toutes ces informations, toutes ces recherches de cas et de personnes contacts de ces cas va effectivement nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur les chaînes de contamination et en savoir beaucoup plus. Ça va aussi nous aider à mieux les contrôler et les éviter.
Donc, ce que vous voulez dire aussi, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une reprise de l'épidémie parce qu'on parle de ces nouveaux foyers. C'est qu'on teste plus.
Ah non, non, je ne pense pas qu'il faille parler de reprise. Là, il faut espérer qu'on est en fait dans une phase un peu post-incendie et qu'on voit quelques fumerolles et éventuellement des petits foyers qui redémarrent à droite à gauche et qu'il faut éteindre le plus rapidement possible. On est dans une phase normale où le virus continue de circuler, de créer des chaînes de contamination et donc qu'il faut détecter et couper le plus rapidement possible.
Jusqu'où faut-il étendre le dépistage, Pascal Crépé? Évidemment, les salariés qui sont autour de personnes contaminées, les familles, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'aux commerçants où peuvent être allées ces familles dans les jours qui viennent? Jusqu'où on étend ce dépistage?
Alors, a priori, non. Les règles sont relativement simples, mais grossièrement, il faut être resté dans une pièce confinée avec la personne si la personne tousse, ou avoir échangé plus de 15 minutes à moins d'un mètre et sans masque pour être considéré comme un contact à risque. Donc, ce n'est pas le fait de croiser une personne dans la rue ou d'être allé faire des achats chez un commerçant qui augmente de beaucoup le nombre de contacts. Après, ça va encore une fois être le dépistage et les tests de l'entourage et puis le fait d'en savoir de plus en plus sur les chaînes de contamination qui permettront éventuellement d'affiner le risque, les risques encourus de contamination, éventuellement de modifier dans le temps ces règles de qui est à risque et qui ne l'est pas. Mais pour l'instant, ce sont à peu près les règles qui sont fixées.
Alors, pour les personnes qui sont porteuses du Covid-19, Pascal Crépé, il y avait eu l'idée évoquée de suggérer, de proposer un isolement à part dans des hôtels réquisitionnés ou utilisés pour ça. On a l'impression que c'est plus trop la ligne, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, c'est regrettable. C'est plutôt de l'isolement à domicile.
Alors c'est regrettable dans les cas où au sein du domicile les personnes risquent d'être en contact avec des personnes qui sont à risque de faire des formes graves parce que ce sont ces personnes-là qui sont à risque d'être hospitalisées, d'aller en réanimation, éventuellement de mourir de la maladie. Donc s'il y a des personnes à risque dans le foyer la meilleure solution, c'est quand même l'isolement en dehors du foyer. Après, si dans, au sein du foyer, il n'y a pas de risque majeur de, parmi les membres du foyer de faire des formes graves, on peut comprendre que l'isolement dans le foyer soit plus simple. Mais c'est vraiment quelque chose à évaluer au cas par cas.
Donc, il ne faut pas recommander l'isolement à l'hôtel à tout le monde forcément. Je vous remercie à tous les deux pour vos éclairages. Pascal Crépé, épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique à Rennes, et François Meurins, professeur d'immunovirologie à l'École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique.